Gracianopolis. Yvan Mazel, Rémi Vigneron, l'émission sur la métropole grenobloise, Radio Campus Grenoble 90.8. Bonjour à tous, bienvenue dans la 8e émission de Gracianopolis sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez votre émission mensuelle d'information et de débat questionnant l'évolution de la métropole grenobloise. Aujourd'hui dans Gracianopolis, on évoque l'habitat participatif en compagnie de Camille Schex de l'association Les Habiles. Nous sommes toujours ensemble avec Rémi pour mener cette émission. Bonjour Rémi.
Bonjour Yvan.
Alors Rémi, on commence par la présentation du sujet. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Alors le thème de l'émission du mois de mai est l'habitat participatif. Il s'agit d'une alternative aux deux voies classiques du logement. Si l'on connaît tous la promotion privée et la promotion sociale, cette troisième voie au logement est un peu moins connue en France. Et pour cause, ce système apparu à la fin du 19e siècle disparaît progressivement sous l'impulsion des lois plus favorables au développement de la maison individuelle et de la propriété privée après la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, les années qui suivent les mouvements du mois de mai 1968 voient renaître le phénomène. En deux mots, l'habitat participatif est caractérisé par un engagement dans une démarche collective qui vise à accéder à un logement. C'est un projet collectif dans lequel les participants réfléchissent ensemble à la manière dont seront réalisés les espaces personnels et les espaces collectifs. Au-delà du simple cadre bâti du logement, le groupe d'habitants a un impact direct sur son voisinage, son quartier et sa ville. L'habitat participatif est donc une démarche sociale avant d'être purement fonctionnelle. Aujourd'hui, le système d'accès au logement classique est basé sur une politique de l'offre où le but est de satisfaire le plus grand nombre. On a tous en tête l'image de ces vastes lotissements pavillonnaires homogènes où l'on est obligé de prendre sa voiture pour avoir une vie sociale. L'habitat participatif s'inscrit quant à lui en opposition à cette stratégie et propose de donner un pouvoir d'action aux habitants pour créer leur logement. Il connaît un regain d'intérêt en réaction à la spéculation immobilière qui a entraîné une augmentation des prix et un appauvrissement de l'offre sur le marché de l'immobilier. Alors plus qu'un simple moyen d'accéder au logement, les partisans de l'habitat participatif défendent une vision de la ville où l'on retrouverait certaines formes de mixité sociale et générationnelle, mais aussi de la diversité urbaine et architecturale. Ces partisans défendent donc bien souvent l'idée d'une ville plus humaine. C'est enfin dans ce sens qu'opère la récente loi Allure pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové. Dans le domaine, on dit que cette loi rattrape les pratiques, mais elle a surtout pour effet de faire de l'habitat participatif un levier connu et reconnu pour l'accès au logement abordable, notamment en précisant deux statuts juridiques, les sociétés d'attribution et d'autopromotion et les coopératives d'habitants. C'est ce second statut de coopérative d'habitants qui marque un réel changement dans les pratiques. La propriété devient collective, elle est régie par l'humain et non plus par l'argent. Les décisions se prennent grâce à un système de représentation où une personne égale une voix. Depuis, on voit fleurir des dizaines de projets partout en France. Des ménages se regroupent pour réfléchir à leur logement et à leur cadre de vie, et c'est cela que nous allons découvrir aujourd'hui à travers des exemples grenoblois.
On a aujourd'hui le plaisir de recevoir en studio Camille Schex, chargée de développement de l'habitat participatif à l'association Les Habiles. Alors le nom Les Habiles signifie Habitat Isérois Libre et Solidaire. Cette association participe dans l'agglomération et au-delà à la promotion et l'accompagnement de ces nouvelles formes d'habitat. Bonjour Camille, bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, essayons d'abord de comprendre ces nouvelles formes d'habitat qui engagent le collectif. On entend souvent parler d'habitat coopératif, d'habitat collaboratif, d'habitat groupé. Mais qu'est-ce qui spécifie l'habitat participatif ?
Alors c'est vrai que l'habitat participatif, c'est le terme qui est le plus employé aujourd'hui parce que c'est le plus rassembleur. Donc ça définit un projet collectif d'habitat où plusieurs foyers décident de se regrouper pour concevoir ensemble leur logement, avec à la fois des espaces privés et des espaces communs, et dans une volonté de partage, de solidarité, de convivialité entre voisins.
Et dans quels espaces, dans quels endroits on peut créer et par rapport à quel patrimoine est-ce qu'on peut faire d'habitat participatif nouveau, ancien ?
Alors il y a une grande diversité en fait dans l'habitat participatif. C'est vrai que ça peut être de la construction neuve ou de la rénovation, ça peut être en milieu rural ou plutôt en urbain. Ça peut être aussi des groupes qui vont entre 3 foyers et jusqu'à une douzaine ou plus. C'est vrai qu'il n'y a pas une norme d'habitat participatif.
Et donc au niveau des prix, au niveau du prix du logement, comment est-on par rapport à un logement classique? On est plus cher, moins cher?
En fait, il n'y a pas vraiment de différence remarquable au niveau du prix. Disons que ce n'est pas l'argument principal, ça ne peut pas être le coût. Parce qu'on dit souvent que c'est le même prix, mais pour un logement de meilleure qualité. C'est-à-dire avec des espaces communs en plus. C'est plutôt sur le long terme, au niveau des économies d'énergie, et de tout ce qui est mutualisé, que ça peut faire des économies.
Très bien, on a compris que l'habitat participatif était un habitat au-delà d'être, en plus d'être un logement. On sait qu'il y a eu une première vague de ce type d'initiative dans les années 80 à Grenoble, qui se questionnait sur comment vivre en commun. À l'époque, quel était le contexte qui a favorisé l'émergence de ce type de projet? Et est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de ces projets d'habitat participatif des années 80?
Oui, alors il y a d'abord un contexte national, c'est que dans les années 80, les gens étaient encore très marqués par les idées de mai 68, donc ça a favorisé le développement de ce type d'habitat, les notions de vie en communauté, même si là, dans l'habitat participatif, on garde aussi ces espaces privés. Et sur l'agglomération, il y a eu à Mélan une municipalité qui a proposé de construire tout un quartier en concertation avec les habitants, vraiment de co-construire avec les habitants à travers un atelier public d'urbanisme. Et cet atelier a donné naissance à de multiples projets, et entre autres trois projets d'habitat participatif, deux en copropriété et un en location sociale. Voilà. Après, il y a eu des habitats qui se sont développés un peu plus tard, notamment le passage à Grenoble dans les années 90, qui étaient en fait des personnes qui avaient déjà créé un habitat participatif dans les années 80 dans le nord de la France et qui ont décidé de renouveler l'expérience quand ils ont dû bouger pour des raisons professionnelles.
Très bien. Que sont devenus ces projets aujourd'hui ?
Alors, ces projets, ils existent toujours aujourd'hui. Ceux qui sont en copropriété, les personnes, on peut bouger. Ils sont toujours là au bout de 30 ans, au bout de 20 ans pour le passage. En revanche, celui qui est en location sociale, les naïfs, il y a eu un peu plus de mouvement. Mais en tout cas, la dynamique reste très forte. Et ils sont encore là aujourd'hui pour témoigner et pour aider les groupes qui se constituent par leur expérience.
On écoute donc tout de suite le témoignage justement d'une habitante de l'habitat participatif des Naïfs à Mélan. Donc Jacqueline Goldsmith nous retrace l'historique de ce premier habitat participatif en location de France qui fête cette année ses 30 ans.
Il y a un groupe de gens qui, dans les années, fin des années 70, vers 79 par là, qui se connaissaient et qui étaient la plupart à la Villeneuve, mais pas tous, et qui ont commencé à réfléchir sur une autre façon d'habiter. Il y a eu ce projet de ZAC des Béalières, donc la municipalité de Mélan avait fait un atelier public d'urbanisme. Et dans le cadre de ce projet-là, avait accepté de réserver trois terrains pour des habitats, ça s'appelait groupés autogérés à l'époque, et dont un en locatif. Le groupe a choisi un architecte, Pluralis sera le bailleur, le propriétaire. Et en septembre 1984, une convention est signée avec les HLM, qui reconnaît la spécificité de cet habitat. Chacun paye pour la surface qu'il a dans son appartement, plus environ 12% qui se trouve ici. Le loyer des communs est intégré dans les loyers individuels. Pour les T4, c'est autour de 550 euros. On a des chauffages au gaz individuels, donc ça c'est à notre charge. Tout ce qui est électricité, eau, gaz, c'est à notre charge. Et puis quand on habite ici, on signe la convention avec Pluralis et aussi on adhère à l'association, puisqu'on est une association, les Naïfs, et on paye une cotisation. Ça nous permet d'entretenir les communs, d'acheter des plantes, de changer un petit peu le matériel, la cuisine, etc. Voilà. Quand il y a un appartement qui se libère, on se réunit et pose la question, est-ce que quelqu'un veut déménager dans l'appartement qui se libère? Une fois qu'on a fait cette première attribution éventuelle, on cherche les remplaçants. Alors c'est arrivé plusieurs fois que des membres du groupe, soit un, soit plusieurs membres, présentent quelqu'un de leur connaissance. Alors, une fois qu'on a quelqu'un à proposer, on commence par l'envoyer chez Pluralis. faire un dossier pour être sûr que qu'il est dans les clous, enfin que voilà, d'être dans les clous, dans les critères HLM. Bon, une fois ce dossier fait, cette étape-là faite, on se réunit. Alors, on demande à la personne qui est candidate de le faire une petite lettre pour se présenter, dire ses motivations un peu. Bon, et puis on a essayé d'éviter le jury d'embauche et on reçoit celui qui présente quelqu'un, le reçoit chez lui pour un apéro et les voisins peuvent passer, faire connaissance. On fait les choses de façon comme ça, conviviale. Et ensuite, on se réunit et puis on discute et voilà, et puis on vote. Trois quarts et avec un droit de veto qu'on n'a jamais utilisé. L'été, c'est le salon dans la cour, hein. On met une table et des chaises, on se prend des... on se fait des petits... Ouais, on se boit un coup ensemble, on se fait les petits... Il y a eu des petits déjeuners dans la cour aussi, ou des apéros, ou bon, mais ça c'est en été. Sinon, effectivement, l'hiver, il y a un peu moins de communication entre les gens, ou alors ça se passe ici à l'intérieur. Et dans les jardins, alors les jardins communiquent, et puis bon, effectivement, d'un jardin à l'autre, ou après les gens sont sur leur balcon, on leur dit bon, ben, tu descends boire un café, enfin, ça se passe comme ça. Oui, au niveau de la construction, c'est l'isolation qui n'est pas bonne. On a trop de voitures, parce qu'au début on arrivait à se garer, hein, il n'y avait pas de problème. Maintenant, par famille, il faut compter deux ou trois voitures, hein, maintenant, c'est plus une voiture, donc on ne sait plus où les mettre. Bon, ceci dit, moi, je suis très bien, là, où je suis. La convivialité avec les voisins, la nature, alors, on est dans un endroit superbe. Il y a eu un regain d'énergie, là, par rapport à, va falloir qu'on fête nos 30 ans. Et pourtant, tout le monde n'est pas là depuis 30 ans, hein, on n'est plus que 4.
On vient d'entendre le caractère utopique de cette initiative. Donc, Camille Chex, au sein même de ce quartier des Béalières, on vient de voir donc que le projet urbain avait également donné une place prépondérante à l'espace public au mode de déplacement doux. Aujourd'hui, l'habitat participatif émerge de nouveau. Quelles idées ont été reprises des projets des années 80 ?
On reste sur cette même idée de partager de la convivialité avec ses voisins, du partage, de l'entraide. Mais il y a aussi des choses qui sont un peu nouvelles, notamment autour des questions d'intergénérationnel et du fait que maintenant, les gens qui se lancent dans des projets de ce type sont plus forcément des groupes affinitaires qui se connaissaient déjà au début, mais ça peut être des gens qui se rencontrent autour de ces projets.
Et quel est alors le tissu d'acteurs et le réseau qui se met en place autour de ces initiatives et qui les favorise aujourd'hui à Grenoble et au-delà au niveau national ?
Alors l'association Les Habiles, nous on s'est créé en 2008, c'était d'abord un groupe de personnes qui avaient eux-mêmes un projet d'habitat participatif qui ont créé cette association pour ensuite partager leur expérience avec d'autres. Et au niveau national, il y a un réseau d'associations qui s'appelle la Coordination qui regroupe 14 associations dans différentes villes de France. Il y a aussi un réseau d'acteurs professionnels, d'accompagnateurs professionnels et un réseau des collectivités dont fait partie la ville de Grenoble.
Très bien, nous avons bien compris dans cette première partie l'histoire de l'habitat participatif. On va maintenant faire une petite pause musicale au milieu de l'émission de radio.
Chez moi, j'y ai fixé des barreaux bien solides et bien gros, sauf un qui est tout en bois. En cas de grande évasion, toujours aventurier, dans ma cage d'escalier, je fais mon papillon. Au mur, un calendrier barré de long en large, non? Je ne suis pas barge, juste un peu avare. J'y dors, j'y tiens boutique, j'y dors, j'y tiens boutique. Contrefaçon et calibre, mais j'ai aussi des livres. Je suis un youv à l'antique. Et juste sous
les marches, la chambre des enfants, à bord un éléphant qui parie. Cette éducation, leur daronne est vénère, car si ça dégénère, adieu ses ambitions. Mais faut commencer tôt, partant d'un escalier, grimpé par palier, en haut d'un échafaud. Commencer tôt, partant d'un escalier, grimpé par palier.
C'était un morceau de Léonide, Cage d'escalier.
Voyons maintenant, Camille Chèque, un projet récent d'habitat participatif à Grenoble, La Salière. Alors voyons comment se monte ce projet, des désirs à la réalisation concrète. On va s'intéresser d'abord, ensuite le mode d'habiter de ce type de logement. Alors quelles sont les étapes d'un tel projet ?
Alors La Salière, c'est un projet qui a pris 7 ans. En fait, les gens ont commencé à se réunir en 2003, ils sont installés en 2010. Les différentes phases, c'est d'abord la constitution du groupe, puis la formulation du projet, la maturation, aussi les questions de faisabilité financière, technique. Et puis c'est surtout la recherche du terrain, car c'est bien souvent ça qui prend le plus de temps. Et là, en l'occurrence, c'est un groupe qui a eu quelques difficultés à trouver un terrain.
Donc comment forme ce groupe et comment à l'intérieur on arrive à prendre les décisions, quelles sont les méthodes que les gens emploient, que les groupes emploient.
Alors pour La Salière, c'est un groupe de personnes qui pour la plupart se connaissaient déjà au départ, mais tout au long de ce projet, comme il a pris plusieurs années, il y en a qui sont partis et donc après ça a été plutôt par les réseaux. Il n'y avait pas d'association à ce moment-là encore qui existait, donc ça s'est fait plutôt par les réseaux des uns et des autres. Sur le mode de décision, alors je ne sais pas précisément pour ce groupe-là, mais de manière générale, c'est le consensus qui est privilégié. Voilà, parce que le vote, ça laisse une minorité qui n'est pas satisfaite. Et donc, en général, les groupes essayent de prendre toutes leurs décisions au consensus.
Et dans cet exemple, et en parallèle avec d'autres cas, le cas général, qui conçoit ce type de projet ? Comment se fait le chantier de ce type d'habitat et de construction ?
Alors, dans cet exemple, ce sont les habitants qui ont conçu le projet, qui ont donc travaillé avec un architecte, mais ils n'étaient pas accompagnés. Il y a d'autres groupes qui choisissent de se faire accompagner par un assistant à maîtrise d'ouvrage dans les phases immobilières. Mais c'est bien le groupe qui est promoteur dans la plupart de ces projets.
Et au niveau du chantier, comment ça se passe ? Est-ce que les habitants ont leur mot à dire aussi, ou du coup, ils laissent la main au responsable de la conception, qui peut être l'architecte dans ce cas-là, par exemple?
C'est un partenariat, en fait, entre les habitants et l'architecte. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'autres intermédiaires. Donc oui, bien sûr, ils ont un regard sur la façon dont se passent les travaux.
Très bien. On a compris comment se construisait dans ces premières phases un habitat participatif. On va maintenant écouter Dominique Lebrun, habitant de l'habitat participatif Domicile Ami dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble, avec un focus architectural.
Vous êtes à Domicile Ami, au cœur de Grenoble, sur la place Saint-Bruno, dans un petit îlot alors à la fois de verdure, de bois et d'individus, bien sûr, puisque c'est ça qui constitue le projet. C'est la motivation première, c'est-à-dire d'être, alors en tout cas pour moi, de vivre en proximité avec deux grandes amies dans un premier temps, parce que moi je vis avec mon épouse, et on avait deux grandes amies, donc c'est nous qui avons monté le projet au départ, on était quatre là, donc on les connaissait un petit peu. Mais voilà, de découvrir d'autres personnes qu'on allait accueillir dans ce projet, qui allaient nous apporter leur univers particulier, leurs aspirations, leurs idées. On a eu la chance d'avoir l'un des membres au départ qui avait l'argent nécessaire pour bloquer le foncier. Ensuite, on savait qu'on voulait au final, même si on avait chacun des apports différents, séparer, c'est-à-dire qu'on soit propriétaire d'un sixième du tout. D'accord ? Donc ça, c'était clair. Même s'il y en avait qui étaient plus riches que d'autres, pour être clair, s'il y avait des prêts à taux zéro ou pas, enfin bon, peu importe. Les échanges avec les architectes ont permis d'élaborer petit à petit le projet qui nous convenait. Alors de manière globale, c'est-à-dire en extérieur, comme je disais, avec un ascenseur qui nous permettra de pouvoir vivre vieux dans ce bâtiment, puisque c'était le but au départ pour nous. L'architecte avait évité de mettre des balcons à chacun des étages pour éviter qu'on se retrouve dehors chez soi, pour que quand on aille dehors, on soit dans la partie commune. Donc l'escalier à l'extérieur a été valorisé par rapport à ça, pour qu'on déambule, qu'on échange. On a aussi porte d'entrée des appartements qui sont vitrés. Donc ça paraît un détail comme ça, mais quand le voisin du dessus passe devant, ben, il jette facilement un œil et puis il voit si la porte est ouverte, si on peut échanger ou on tient un petit coucou, un petit bonjour. Ou moi je sais qu'on a simplement un rideau qui permet de nous isoler, donc s'il y a le rideau, il sait très bien qu'on n'est pas dispo et puis il passe son chemin. Il y a 6 apparts, il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Sur les mêmes surfaces au départ, au sol, donc c'est intéressant. Ça prouve combien l'architecte a répondu aux aspirations de chacun. Et puis on a mis en place, donc de manière officieuse, il n'y a rien d'obligatoire, des réunions tous les 15 jours au cours d'un repas, donc un repas le soir. D'abord, ça fait plaisir de se voir, parce qu'on ne se voit pas toujours forcément, selon les heures de boulot de chacun, on ne se croise pas. Et de prendre un temps pour discuter des décisions à prendre pour le bâtiment, ou même pas, enfin souvent il n'y a rien à décider, mais on se fait plaisir à dîner ensemble, tout simplement.
On va maintenant voir comment vit-on dans ce type d'habitat. Alors quel est le mode de vie des habitants? Qu'est-ce qui est partagé, Camille Seix, dans ce type d'habitat, et quelles règles on pose pour vivre en commun?
Alors le mode de vie, c'est sûr que c'est un mode de vie qui est plus tourné vers le collectif que dans un habitat classique. Hein, comme le dit l'habitant de domicile ami, il y a des moments de convivialité, le groupe prend soin de vraiment organiser ces temps-là de rencontres. Et puis ça se fait aussi dans le quotidien, dans des petits échanges de services, d'entraide. Voilà, ce qui est partagé, c'est aussi des espaces communs. Dans tous les habitats, il y a au moins une salle commune qui sert à se réunir ou à faire des fêtes. Voilà, différents temps en commun. Il y a parfois, c'est très divers en fait. Ça peut être une buanderie partagée, ça peut être de l'autopartage. En tout cas, s'il y a un jardin, il est mis en commun, les outils sont également mis en commun. Mmh. Voilà, et pour les règles de vie, c'est d'abord du respect, de l'écoute et le fait de se parler beaucoup et de résoudre les problèmes le plus tôt possible pour que ça se passe bien.
Oui, d'ailleurs, en parlant de ces problèmes, il y a quand même... J'imagine des difficultés dans le processus d'habitat participatif. Est-ce qu'on peut citer quelques difficultés qu'il peut y avoir au cours de ce processus?
Les difficultés, c'est surtout tout ce qui est lié à la vie collective et à l'idée de concilier les idées des uns et des autres. Donc après, c'est vrai qu'il y a des groupes qui nous disent on aurait besoin d'approfondir, d'être formé par exemple sur de la communication non violente pour pouvoir dire les choses de manière plus sereine. Et après, les difficultés, elles peuvent aussi se poser quand il y a une personne du groupe qui part. Et que l'enjeu, c'est bien de garder l'esprit du projet. Et avec une personne nouvelle qui n'a pas passé toutes les différentes étapes de la construction du projet, ça impose de bien le préparer et d'y réfléchir en amont.
On va maintenant écouter le témoignage de Brigitte Mongaudin, membre active du projet Graines de Bitume. Elle nous explique l'émergence du premier habitat coopératif à Grenoble suite à la loi Allure, située rue Alfred de Vigny.
C'est un projet de coopérative d'habitants, donc qui sera le premier projet sur Grenoble. Je crois que c'est un peu une envie militante finalement du coup de lutter contre la spéculation immobilière, pas de volonté d'être propriétaire, voilà. Et de promouvoir ce type de montage, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui répond à des besoins aujourd'hui. Sur l'agglomération peut-être spécifiquement, mais aussi bien plus largement sur l'ensemble du territoire national. Donc on est locataire individuellement et propriétaire collectivement, puisque c'est la coopérative qui va être propriétaire des murs. Nous, on est un projet d'une dizaine de ménages sur lequel on va travailler en mixité avec un bailleur social, puisqu'il y a un certain nombre de ménages qui relèvent du logement social et que la solidarité financière, on ne pouvait pas la porter en propre, tous ensemble, ça faisait trop de déséquilibre financier. On fait une proposition à la ville pour avoir un bail emphytéotique, qui a reçu plutôt un bon accueil. Voilà, on attend la décision finale. Et on travaille aussi avec Un Toit pour Tous, qui est donc une association qui accompagne des familles sur du logement très social pour leur permettre d'avoir un logement en gestion dans notre projet pour permettre à une famille certaines, enfin, qui est, on va dire, éloignée de ce genre de préoccupations de l'habitat participatif et de locaux communs, de participer au projet. Alors on est 10, sachant qu'il y aura le 11e ménage de Un Toit pour tous, donc là qu'on ne connaît pas. Et dans les 10, on a 3 familles. Et puis après, on a des ménages sans enfants ou des personnes seules. On a potentiellement encore peut-être une ou deux familles. On se rend compte que quand même, c'est plutôt des femmes proches de la retraite ou en âge de la retraite s'intéressent à ce type de projet. Il y a très peu, en tout cas, d'hommes seuls, par exemple. Il y en a très peu qui viennent nous voir. On essaye de pas basculer sur un projet qui soit uniquement féminin ou uniquement deuxième partie d'âge et de maintenir ce lien avec des ménages jeunes qui n'est pas simple, soit par manque d'intérêt ou par manque de temps ou par difficulté à s'investir. Déménager fin 2017, début 2018 pour rentrer dans les murs et ouvrir la salle commune, voilà.
Venons-en donc aux projets actuels à la suite de Graines de Bitume. Quels sont, Camille Chex, les projets en cours dans l'agglomération grenobloise? Et si des auditeurs veulent monter un groupe ou s'incorporer à un existant, comment peuvent-ils faire?
Alors sur les opérations en cours, il y en a plusieurs sur Grenoble. Comme Graines de Bitume, il y en a deux autres sur le quartier des Eaux Claires, qui s'appelle Eaux Claires du quartier, sur le quartier Bajatière, Cerise de Terre. Deux autres groupes donc qui sont sur des terrains qui ont été proposés par la ville de Grenoble dans le cadre d'un appel à projet. Un autre groupe qui n'est pas encore complet, qui est sur le quartier de la Presqu'île à Grenoble. Ils recherchent encore 4 familles, donc avis à la population. On a les ateliers des habiles, les ateliers qu'on organise une fois par mois, c'est un moment pour rencontrer des groupes justement qui sont incomplets. On a aussi des petites annonces sur notre site internet qui permettent de voir des opportunités foncières ou des groupes à compléter.
Donc nous savons maintenant à peu près tout sur l'habitat participatif. On vient maintenant à notre dernière question que l'on pose à chacun de nos invités ici dans les studios de Radio Campus. Qu'est-ce que pour vous la métropole grenobloise, Camille Chex?
La métropole grenobloise, je pense que c'est un territoire moteur pour les initiatives sociales et citoyennes. Et puis, c'est aussi une opportunité pour l'habitat participatif. On vient d'apprendre qu'il y aurait un appel à projet intercommunal en 2016 qui proposera différents terrains dans différentes communes de l'agglomération. Et on espère que ça permettra à l'habitat participatif de fleurir un peu partout dans l'agglomération.
Ce 8e numéro de Gracianopolis touche maintenant à sa fin. Si le thème de l'habitat participatif vous intéresse donc, vous pouvez consulter le site des Habiles, leshabiles.org, ou vous rendre à la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère, place Birakeim, à Grenoble, le premier lundi de chaque mois, où ils proposent des ateliers ouverts au public. Nous signalons également l'exposition qui se tient actuellement et jusqu'au 30 mai à la plateforme sur la place Verdun à Grenoble, qui permet de découvrir l'historique de l'habitat participatif en France et qui présente de nombreux projets locaux. Et si vous êtes encore plus curieux, vous pouvez même vous rendre aux portes ouvertes de l'habitat participatif le week-end des 30 et 31 mai 2015 pour de nombreuses visites à Grenoble et dans ses alentours. Donc on souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Donc merci tout d'abord à l'association Les Habiles, à Camille Chex pour avoir accepté notre invitation pour enregistrer ici l'émission dans les studios et à Gérard Vabre pour les échanges par mail. Merci à Dominique Lebrun, Brigitte Mongaudin et Jacqueline Goldschmidt pour les entretiens qu'ils nous ont accordés. Rémi, nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Gracianopolis. Vous pouvez nous retrouver, comme toujours, sur notre audioblog www.mixcloud.com/gracianopolis et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Campus Grenoble 90.8.
Et battent l'heure sur le pavé.